Alors, on va en fait terminer aujourd'hui le petit cycle que nous avons vu dans Ésaïe. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, on étudie tout le livre d'Ésaïe, chapitre après chapitre, mais on le fait par petite dose de quelques chapitres à la fois. Et donc là, on est dans la partie qu'on appelle des fois l'Apocalypse d'Ésaïe, parce que ce sont les chapitres 23, 24, 25, 26, 27, c'est ça? Non, 24 à 27, en fait. L'Apocalypse d'Ésaïe. Donc, on va terminer ce petit cycle. Ne vous inquiétez pas si vous n'étiez pas là les autres fois, parce qu'en fait, le chapitre 27 se tient tout seul dans ce sens, même si c'est le même style. Vous allez voir cela. Pourquoi on appelle l'Apocalypse d'Ésaïe? Parce que, et là je le mets un petit peu en introduction, c'est quoi le style apocalyptique dans la Bible? On la trouve bien sûr dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. On la trouve aussi dans à différents moments, même dans l'enseignement de Jésus, on le trouve dans les prophètes. Il y a un certain nombre d'éléments qui se retrouvent presque toujours. D'abord, il y a une perspective universelle. Il ne s'agit pas simplement d'Israël ou de l'Église, une perspective universelle, ça concerne le monde entier. Il y a souvent un contraste entre deux villes. Donc, Jérusalem d'un côté, ou selon les prophètes, Ninive en Assyrie, ou Babylone, ou Rome, sous-entendu par Babylone dans l'Apocalypse. Mais en fait, ce sont des villes symboliques qui représentent soit la cité de Dieu, hein, pour citer saint Augustin, ou la cité des hommes. Donc, on se met sous la gouvernance de Dieu, ou bien on se débrouille tout seul sans Dieu. Donc, il y a ce contraste. Il y a aussi un vocabulaire qui évoque tout le temps le bouleversement de la nature, les étoiles qui tombent, le soleil qui s'obscurcit, etc. Bon, pour dire que c'est bouleversant. Il y a également, pas aujourd'hui en fait autant, mais dans les chapitres précédents, des petits moments de prière ou de cantique. On le sait dans l'Apocalypse, par exemple, il y a des moments de cantique. Et puis finalement, le message, c'est que Dieu est souverain. Parce que c'est lui qui est le maître de l'histoire, c'est lui qui a son plan, et on va revenir à ce mot aujourd'hui, son plan, qui traverse les siècles jusqu'à l'aboutissement que lui a prévu à la fin. Donc Dieu est souverain. Et donc il y aura même un jugement, sa victoire finale par le jugement de tout ce qui s'oppose à lui, donc de l'humanité rebelle. Et donc il y a toujours des exhortations à faire confiance à Dieu pour son peuple. Donc voilà, ça c'est le style apocalyptique que l'on va retrouver encore dans ce chapitre 27. Et c'est un style un peu compliqué. On va essayer, donc je vais essayer de décortiquer un petit peu ce chapitre. Pourquoi compliqué? Parce qu'il y a le mélange des temps. On part d'un événement, puis d'un événement un petit peu plus loin, presque sans transition. Et puis on revient en arrière, comme j'ai dit, je pense qu'il y a 15 jours. Peut-être de nos jours, on le comprend mieux, parce que dans les films qu'on regarde au cinéma, il y a des flashbacks, on va dans tous les sens. C'est un petit peu comme ça dans l'apocalyptique. Ce n'est pas linéaire, si on veut. Et en tout cas, on va vers le règne définitif de Dieu, où la mort et la souffrance n'existeront plus. Alors je vais lire ce chapitre, le chapitre 27. D'Ésaïe. À partir du verset 2, parce qu'on avait fait le verset 1, ça faisait partie en fait du développement du chapitre 26. Ésaïe 27, verset 2. Ce jour-là, entonnez à son intention un cantique sur la vigne excellente. Moi, l'Éternel, je suis son gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on l'attaque, nuit et jour, je veille sur elle. Il n'y a pas de colère en moi, mais si je trouve des ronces et des buissons épineux à combattre, je marcherai contre eux. Je les ferai disparaître tous ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Oui, qu'on fasse la paix avec moi. Dans l'avenir, Jacob prendra racine. Israël fera des fleurs et des rameaux et remplira la surface du monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qu'il a frappés? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qu'il tuait? C'est avec mesure que tu l'as sanctionné de l'exil. L'Éternel l'a emporté par son souffle impétueux un jour où soufflait le vent de l'Est. C'est ainsi que la faute de Jacob a été expiée, et voici le fruit du pardon de son péché, quand il rend toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux transformées en poussière. Les poteaux sacrés et les piliers consacrés au soleil ne se relèvent plus. En effet, la ville fortifiée est solitaire. C'est une maison délaissée, abandonnée comme le désert. Le veau vient y brouter, il s'y couche et mange les branches. Et quand les rameaux sèchent, on les casse. Les femmes viennent y mettre le feu. C'était un peuple dépourvu d'intelligence. Voilà pourquoi celui qui l'a fait n'a pas eu compassion de lui. Celui qui l'a façonné ne lui a pas fait grâce. Mais il arrivera ce jour-là que l'Éternel procédera à un battage depuis le cours de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un, Israélites. Ce jour-là, on sonnera de la grande trompette. Alors, ceux qui étaient perdus en Assyrie ou réfugiés en Égypte reviendront et se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. On va essayer de décortiquer un petit peu parce que c'est vrai qu'à la première lecture, on va dire, c'est une autre époque, c'est un autre monde, c'est un autre vocabulaire. En quoi ça nous concerne aujourd'hui? Ce qui est intéressant, est-ce que vous avez remarqué, le verset 2 dit « Entonnez à son intention un cantique sur la vigne excellente. » Alors, ceux qui étaient là au mois de septembre 2016, parce que ça fait un moment qu'on a commencé, les amis, ceux qui étaient là au mois d'octobre 2016, il y a un chapitre, ce chapitre 5, qui parle de la vigne. Donc, on va le relire. Je m'excuse pour ceux qui étaient là, si vous allez relire la même chose, mais je suis pas sûr que chacun se rappelle tout. Donc on va lire le chapitre 5, du verset 1 à 7. Parce que là, c'est pas une vigne excellente. C'est une vigne que le Seigneur blâme. Il fait beaucoup de reproches. Donc, la vigne représente Israël. Donc, au chapitre 5, la vigne, voilà, je vais lire ces versets qui sont pathétiques. Hein. Et vous allez voir que ce vigne, il y a des mauvais fruits, la vigne sera abandonnée, il n'y aura pas de pluie, elle est ronce et du buisson épineux, la vigne sera piétinée. Quand on dit piétiner, ça veut dire que des armées étrangères vont venir s'attaquer à Jérusalem et au peuple d'Israël. Et Dieu dit, bah, en fait, j'ai tout fait pour que cette vigne se porte bien. Mais, voilà, je lis Ésaïe 5. Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, il a enlevé les pierres, il y a mis des plants de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle, il y a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-il produit de mauvais? Je vais vous savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée. J'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Je ferai d'elle un endroit saccagé. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les buissons épineux y pousseront, et je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est le peuple d'Israël. Et Juda, c'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture, et voici de l'injustice. De la justice, et voici des cris d'accusation. Et puis voilà, il donne des exemples. Malheur à vous qui ajoutez maison à maison, qui joignez champ à champ, jusqu'à n'y ait plus d'espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. Donc ça veut dire les riches qui prenaient la place des pauvres, qui construisaient des maisons, etc. Bon. Je rappelle donc que tout le message d'Ésaïe pendant ces premiers chapitres, c'est de dire, si vous ne vous repentez pas, je serai obligé d'intervenir, et cette intervention, en fait, c'était d'envoyer le peuple en exil. Et ça s'est passé en deux temps historiquement, le royaume du Nord envoyé en Assyrie, et puis plus tard le royaume du Sud à Babylone. C'était dit clairement, la ville sera piétinée. Et voilà, on est dans un chapitre, on va dire de style apocalyptique, où tout d'un coup on voit que la vigne c'est tout autre chose. Si on voit au chapitre 27, il y a des bons fruits. La vigne n'est plus abandonnée, Dieu dit « je suis son gardien ». Chapitre 5, pas de pluie. Chapitre 27, arrosé par Dieu. Chapitre 5, des ronces, des buissons épineux, la disparition des ronces et des buissons épineux. Piétiné, non, la vigne va s'étendre. Donc ça, c'est les versets 2 à 6 que je vais juste relire. Ce jour-là, on tenait à son intention un cantique sur la vigne excellente. Moi, l'Éternel, je suis son gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on l'attaque, nuit et jour, je veille sur elle. Il n'y a pas de colère en moi, mais si je trouve des ronces et des buissons épineux à combattre, je marcherai contre eux. Je les ferai disparaître tous ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi, oui, qu'on fasse la paix avec moi. Et dans l'avenir, Jacob prendra racine, Israël fera des fleurs et des rameaux et remplira la surface du monde de ses fruits. Donc les ronces et les buissons, on peut comprendre les peuples étrangers, les armées étrangères qui arrivent. Et Dieu dit non, il faut que ses ennemis fassent la paix avec moi. Et Israël va s'étendre, faire des fleurs et remplir la surface du monde entier. Donc, avant d'aller plus loin, il faut dire, Ésaïe parlait au peuple de son temps avec le langage qu'il comprendrait. Maintenant, nous sommes à l'époque de la Nouvelle Alliance. Dans ce sens, on est obligé de réinterpréter un petit peu tout cela à la lumière de la Nouvelle Alliance, à la lumière de Jésus, et on comprend que le peuple de Dieu n'est pas simplement le pays d'Israël, c'est l'ensemble des rachetés de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, etc., qui forment l'Église, le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance. Donc, on le lit un petit peu avec deux pensées en tête. On essaie de lire qu'est-ce qui s'est passé au peuple d'Israël dans l'histoire, mais en fait, en prenant un peu de hauteur, mais la même chose se passe pour nous, en tant que peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance. On est obligé d'avoir un petit peu les deux regards en même temps. Alors, revenons donc dans un premier temps, pour le comprendre, historiquement, pour le peuple d'Israël. Et, comme j'ai dit dans cette littérature apocalyptique, Dieu est souverain, Dieu a un plan. Et il va faire aboutir son plan. Donc, une partie de ce plan, on le voit, je l'ai déjà lu, les adversaires du peuple de Dieu doivent faire la paix avec Dieu. Ça se fera un jour. Et il y a des textes que nous avons déjà vus dans Ésaïe, extraordinaires, où Dieu dit, l'Égypte, Babylone, Israël, ce sont mes peuples. Pas seulement le peuple d'Israël, mais mes peuples. Et puis, le verset 6, la robe du peuple de Dieu s'est touchée le monde entier. Et j'étais frappé, mais chaque fois que quelqu'un prépare une présidence sans savoir forcément le message, on a chanté deux, trois chants qui parlaient de ça ce matin. De tout genou qui fléchira. Voilà. On est au verset 6. Mais pour le moment, restons donc au niveau d'Israël à l'époque d'Ésaïe. Et donc Dieu a son plan. Alors, son plan, c'est que pour qu'Israël passe de la vigne du chapitre 5 à la vigne du chapitre 27, il fallait que Dieu intervienne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il doit intervenir pour que le peuple de Dieu soit en mesure d'assumer ce rôle, de s'étendre et de toucher le monde entier. Et il le fait en les punissant en quelque sorte, mais avec une juste mesure. Il fallait qu'ils comprennent, mais il ne fallait pas qu'ils soient détruits. Et c'est ce qu'il est en train de dire entre les versets 7 et 9. Dieu s'occupe de son peuple. Il dit, est-ce que l'Éternel a frappé comme il a frappé les autres? Je résume, verset 8, non, c'est avec mesure que tu l'as sanctionné de l'exil. C'était dur de partir en exil, mais ils ont quand même gardé quelque part leur identité de peuple à Babylone. Ils étaient amenés à se repentir. On le voit dans certains psaumes. Donc, comment je pourrais oublier Jérusalem? Les Babyloniens nous demandent de chanter des chants. Hey, vous n'avez pas de folklore chez vous? Chantez nouveau chant. Et dis-moi, je peux pas. On a suspendu nos harpes. Là, sur les arbres, en Babylone, on peut pas chanter parce qu'on est loin de Jérusalem. On est loin de chez nous. Et ils sont repentis. Ils ont compris. Et qu'est-ce qu'ils ont compris? Après avoir envoyé, verset 8, ce souffle impétueux qui le vent d'Est, le vent de l'Est, hein, donc c'est les Assyriens, les Babyloniens qui venaient de l'Est. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont dû se repentir, comprendre leur péché, et, verset 9, leur péché est pardonné. Et l'idolâtrie, c'est fini. Ça, c'est le vrai fruit de la repentance, de l'idolâtrie. Et hier, j'ai assisté à une journée organisée par les Gébus, c'était le réseau des arts, un peu sur la louange, et l'intervenant du matin nous a dit, le vrai obstacle de la louange, c'est toujours une chose, c'est l'idolâtrie. Toujours. On va, il a utilisé une belle phrase, il dit, on ne chante pas sur « à toi la gloire », mais sur « à moi la gloire ». C'est une façon de le dire, en quelque sorte. C'est-à-dire que je décide qui je vais adorer, et ce n'est pas l'Éternel. Et là, pendant l'exil à Babylone, ils ont compris. Et je crois que je l'ai dit il y a 15 jours, quand le peuple d'Israël est revenu, ce n'était pas un peuple parfait. Tous les êtres humains sont pécheurs. Mais même Jésus, qui avait fait beaucoup de reproches envers les pharisiens, les scribes, etc., il ne les a jamais accusés de l'idolâtrie. Parce que ça, c'est fini. C'était fini. Il s'était purifié de l'idolâtrie. Et c'est pour cela que la fin du verset 9, il dit que donc Dieu rend toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux, transformées en poussière, les poteaux sacrés, les piliers consacrés au soleil ne se relèvent plus, jamais plus. Donc ça c'est l'œuvre du Seigneur, est intervenu auprès de sa vigne du chapitre 5 pour en faire la vigne du chapitre 27. Donc on va dire, on va passer de la première à la deuxième vigne, c'est-à-dire de l'abîme du désespoir à un aboutissement heureux. Donc maintenant, il va retracer la même chose, tout ce que je viens de dire, au verset 10 à 13. D'abord, il va changer Il ne va plus parler de vigne, il va parler de ville, au verset 10. En effet, la ville fortifiée est solitaire. C'est une maison délaissée, abandonnée comme le désert. À tel point où le veau vient brouter à l'intérieur de la ville, et il y a des rameaux qui sèchent, et les femmes viennent les chercher pour pouvoir les utiliser pour faire la cuisine. Donc ça, c'est des versets 10 à 11. Voilà, c'est un moment terrible. Pourquoi ? Le verset 11 le dit, c'est un peuple dépourvu d'intelligence. Un peuple dépourvu d'intelligence, intelligence spirituelle. Ils ne sont pas soumis à l'Éternel, c'était l'idolâtrie. Et pire que ça, parce que Ésaïe l'a dit, il y avait de l'injustice sociale, il y avait de l'immoralité, il y avait beaucoup de choses. Mais ce jour-là, et vous rappelez, ça veut dire le jour de l'Éternel, ce jour-là, c'est au moment où Dieu intervient. Là, le contraire va se passer. Ce jour-là, ce sera le retour des exilés. Et 70 ans après l'exil, ils sont revenus dans la souveraineté de Dieu. Et il utilise deux métaphores pour l'expliquer. D'abord, la métaphore agricole. Donc, c'est quand on sépare le bon grain de ce qu'on appelle la balle, le résidu non consommable, c'est pas le battage. Donc, on va battre les graines, ça va passer par des cribles pour ne garder que le bon grain. Le battage. Si on veut personnifier un petit peu tout cela, mais bien sûr, le grain ne le ressent pas, mais c'est une opération douloureuse, hein, d'être battu pour séparer le bon grain de la balle. Mais la promesse est là, à ce moment-là, vous serez ramassés un à un, Israélites. Donc Dieu s'occupe de chacun individuellement pour les faire revenir de cet exil parce qu'ils s'étaient repentis. Et la deuxième image, c'est la métaphore cultuelle. Donc le cor, la grande trompette, chauffard, pour appeler le peuple d'Israël à venir au temple pour les fêtes, pour adorer Dieu. Et il dit voilà, ce jour-là, cette grande trompette sonnera, c'est le verset 13, et ceux qui étaient perdus en Assyrie, ou réfugiés en Égypte, reviendront. Ils vont entendre cette trompette, ils vont répondre à l'appel de Dieu, ils vont venir à la montagne sainte, à Jérusalem. Donc là, on voit exactement le même vocabulaire que la fin du livre d'Apocalypse, cette Jérusalem céleste, cette montagne, en quelque sorte, on va revenir chez soi, en quelque sorte. On revient à la maison, on sera chez nous pour l'éternité. Alors, on voit que le Seigneur, avec son peuple d'Israël, est intervenu pour faire trois choses. Dieu a un plan. Que son peuple soit purifié, que son peuple porte du fruit, et pour que son peuple couvre la surface de la terre. Et donc voilà, il avait choisi le peuple d'Israël, et il leur a donné sa loi, il a envoyé les prophètes parce qu'ils avaient un peu trop tendance à n'obéir que superficiellement, c'était pas le cœur qui était changé, les prophètes demandent un changement de cœur, il a fallu même procéder à l'exil pour que ça aboutisse, pour que le peuple soit prêt à comprendre suffisamment de choses pour être le berceau de Jésus. Et voilà, donc, il fallait qu'il soit purifié et porté ce fruit de la vigne excellente du chapitre 27, et pour couvrir toute la surface de la terre. Et donc, pour terminer, j'aimerais dire, c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Nous, le vivant en tant qu'Église, le peuple de Dieu du Nouveau Testament, parce que nous sommes aussi les sarments de la vigne du Seigneur. On est exactement dans la même situation. Donc j'aimerais quand même que l'on passe maintenant dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 15. Voilà, c'est matinée vigne. Parce que Jésus dit, bon, il est la vraie vigne, le vrai cep, et que nous sommes les branches, les sarments de cette vigne. Nous sommes attachés au cep. Donc, je vais lire ces versets 1 à 8. Et vous allez voir qu'il parle tout autant donc, de la nécessité d'être purifié, de porter du fruit. Jésus dit, « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il taille, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et que cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Donc voilà, nous sommes aussi la vigne. J'espère qu'on mettrait à côté de nous le mot de Ésaïe 27, une vigne excellente. Voilà. Mais cette vigne, vous avez entendu, vous avez vu quand je l'ai lu, il faut qu'il soit purifié. Et c'est pour cela que, au verset 2, Jésus dit que le Père, qui est le vigneron, va tailler le fruit afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans la botanique, mais Marie, elle est les doigts verts. Elle aime beaucoup tout ce qui est plante. Et parfois, elle dit, il faut que je taille cette plante. Donc, elle a une plante d'intérieur. Et elle coupe. Et j'ai dit, tu vas le tuer. Je me souviens, on avait une grande plante. Je dis, mais jamais ça repoussera. Mais si, ça repousse. Mais elle a taillé. Apparemment, il ne restait plus grand-chose. Mais si, parce que c'était encore plus vigoureux après. Et donc, Dieu va faire la même chose avec nous. Il va nous tailler, il va enlever ce qui ne lui plaît pas. Alors, comment il va faire? Je pense qu'il va se servir de tout ce que nous vivons jour après jour. Rien ne nous arrive qu'il n'a pas permis pour nous. Alors, je ne sais pas si vous avez pensé à cela. Moi, je sais qu'une fois, j'ai fait une prédication il y a bien des années là-dessus, sur nos choix. Et en fait, tous les jours, on fait des centaines et des centaines de choix. Bon, certains, ce sont des choix tout simples. Bon, que j'ouvre le tiroir pour choisir une paire de chaussettes que je vais mettre le matin, par exemple. Bon, c'est un choix. Après, au petit-déj, est-ce que je prends une deuxième tasse de café ou est-ce que je reste avec ma première tasse? Bon, mais bon, ce sont des choix, mais on fait beaucoup de choix dans ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous décidons, qui sont des choix beaucoup plus, qu'on peut dire, importants. Et tous les jours, nous sommes devant ces choix. Donc, le fait de faire de bons choix est une façon dont le Seigneur se sert pour tailler, en quelque sorte, ce qui ne va pas dans notre vie. Parce que petit à petit, il veut que les mauvaises habitudes changent pour être des bonnes habitudes. Il demande de réfléchir à tout ce qui est bien, aimable, pur, etc. Il nous demande face à des personnes, de prendre les bons choix de nos réponses, de notre façon de réagir, des bons choix sur notre utilisation de notre temps. Tout cela, il s'en sert pour que nous portions du fruit. Et ce fruit, en fait, le fruit, c'est toujours notre caractère. Il y a un seul verset dans le Nouveau Testament où on peut comprendre que le fruit, c'est autre chose. Le fruit, ce sont des personnes, un seul. Mais normalement, toutes les autres mentions de fruits, c'est plutôt notre caractère. Et surtout, vous connaissez comme moi, peut-être le chapitre 5 de Galates, où on parle du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Bon, on est en chemin. On est en chemin. On n'est pas encore au point de dire « Je suis tous les jours parfaitement rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, etc. etc. » Mais c'est important, surtout cette notion de douceur et de maîtrise de soi. La douceur, d'ailleurs, c'est un mot apparemment qu'on utilisait dans l'Antiquité pour un peu apprivoiser les animaux. Donc, c'est un petit peu ça à la racine. Et donc, on doit apprendre à se maîtriser, à s'apprivoiser soi-même, sachant que, dans l'Antiquité comme aujourd'hui, ce n'est pas forcément des qualités qui sont bien vues. Il faut faut s'imposer, peut-être dans le monde de l'entreprise ou ailleurs. Hein, donc, mais le Seigneur nous demande quand même d'avoir ces qualités. C'est son but. Alors, comment il va faire? Il dit bien que l'on doit rester attaché à lui. Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là encore, un petit peu attention, parce que j'ai souvent posé la question. Donc, est-ce que cela veut dire, avec moi, vous n'avez rien à faire, ou avec moi, vous pouvez tout faire? C'est plutôt le deuxième. D'ailleurs, Philippiens 4, 13 dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Donc, on doit aussi contribuer à l'œuvre du Seigneur, non pas pour notre salut, ça c'est gratuit, ça vient de lui, mais pour notre sanctification, on doit travailler avec lui pour progresser, alors qu'il taille ce qui ne va pas dans notre vie, et il taille les branches pour que nous portions du fruit. Nous purifier, porter du fruit. Alors, couvrir la surface de la terre, quelle est la relation alors? Je pense que ceux qui sont des habitués ici le savent. Depuis le début du mois de janvier, on met en avant une chose, c'est que les gens vont se tourner vers Dieu, surtout aujourd'hui, parce qu'ils connaissent un chrétien, et parce que le chrétien établit une bonne relation avec lui. On a beaucoup parlé d'hospitalité. L'hospitalité en tant qu'Église, Jean 13, 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est pour ça qu'on a déjà fait notre petit coin convivial, où les femmes ont entre elles, où on fait des choses un peu plus conviviales. Mais aussi, en s'invitant les uns les autres et en invitant les gens chez nous. Et je crois que j'avais lancé le défi, je ne sais pas auprès de qui, d'inviter au moins un non-chrétien à la maison pour un repas chaque mois de l'année. Et pour essayer de bâtir ces relations avec les gens, parce que c'est quand finalement les gens voient ce que nous sommes avec le fruit de l'esprit, que ça peut les toucher. Ils sont dans le désarroi, on le sait actuellement, mais ils veulent voir des gens qui font confiance à Dieu. Donc je viens à l'apocalyptique, c'est faire confiance à Dieu. Et ça, on a vu au chapitre 24, 25 et 26. Donc, s'intéresser aux autres, leur faire du bien, les aimer, ça c'est le fruit que l'on porte. et qui va en fait faire en sorte que le témoignage de l'Évangile s'étende sur toute la terre.